Alors, elle te plaît ma nouvelle cuisine?
Du Made in France? Tu te mets bien? T'as eu une prime? Non, je sais. Tu l'as eu d'occasion.
Le Made in France pas comme les autres, c'est celui qu'on peut se payer. Et apparemment, certains ont du mal à y croire. Rendez-vous sur socook.com pour le vérifier et estimer le prix de votre cuisine. Socook, des cuisinistes pas comme les autres.
Il est 5h. Beurre FM, la rediff.
Merci d'être avec nous, c'est Beurre FM que vous écoutez. Dimanche, 11h.
Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Et bonjour, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Avant de vous présenter notre film et notre invité de la semaine, voici le programme de l'émission. Dans moins de 2 minutes, ma sélection des sorties ciné de mercredi prochain avec un biopic musical, un nouveau film avec Zendaya et l'histoire d'une jeune avocate. Vers 11h30, ce sera le point sur l'actu avec le box-office, des nouvelles de Cannes, une série sur Brigitte Macron et puis Tarantino qui abandonnerait son nouveau film. Mais pour notre film de la semaine, direction le Maroc et plus précisément la région de Tanger où se trouve le théâtre du film Indivision. Une grande et belle maison avec un vrai manoir même on peut dire, avec une immense propriété. C'est la maison de la famille Bechtani, une famille bourgeoise qui va justement s'y retrouver au grand complet pour un mariage. Un mariage mené d'une main de fer dans un gant de velours par la grand-mère, avec alors qu'un projet de vente va mettre le feu au sens propre et un peu au sens figuré aussi dans la bonne entente de façade de cette famille. Mais c'est pas qu'une histoire de famille puisque Indivision est tourné comme un thriller et parle aussi beaucoup de nature, de classe sociale, de réseaux sociaux, de choix et de jusqu'où on peut aller quand on veut vraiment quelque chose. Le tout vu par les yeux d'une jeune ado qui a décidé de ne plus prononcer un mot, mais que l'on va quand même beaucoup entendre parler. Notre invité pour en parler, c'est Emmanuel Barreau, producteur et distributeur de DKB Productions. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, on est ravis de vous avoir dans ce studio. Ça a été un peu rocambolesque, on va dire, mouvementé, pour ne rien cacher à personne. C'était Leïla Kilani, la réalisatrice du film qui devait venir à votre place et qui a dû céder sa place puisqu'elle est malade, elle est vraiment...
Elle a une pneumonie, ce qui n'est pas rien, et donc oui. Elle ne peut pas ouvrir la bouche sans tousser.
Ce qui est un peu embêtant pour une émission de radio. Hein.
C'est catastrophique.
D'accord. En tout cas, on est ravis et merci beaucoup d'avoir pu prendre sa place comme ça au pied levé.
Merci
sais que
à vous.
C'est pas toujours facile et on est content de pouvoir quand même parler du film. On va revenir justement sur votre rôle de producteur et distributeur parce que c'est des mots qui sont connus pour les gens qui sont dans l'univers du cinéma, mais pour le grand public c'est des métiers qui peuvent parfois être un peu obscurs, on sait pas ce que... Non, vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous faites, mais avant, comme à chacun de nos invités, on vous propose de choisir 2 questions, une question que vous avez envie qu'on vous pose et je vous la poserai un moment dans l'émission, et une question que vous ne voulez pas que je vous pose. Est-ce que vous avez trouvé vos 2 questions, Emmanuel Barreau?
Eh ben, celle que j'aimerais qu'on me pose, c'est pourquoi continuer à produire des films d'auteur?
Oui.
Et celle que je voudrais pas qu'on me pose, c'est est-ce que vous pouvez me pitcher le film?
Ah, d'accord. c'est un peu embêtant parce que je la pose à chaque fois. Mais comme vous ne voulez pas que je vous la pose, eh ben, je ne vous la poserai pas. En tout cas, j'ai noté qu'on vous parlera de pourquoi continuer à produire des films d'auteurs. Celle-là, elle est notée. Voilà, je note en même temps que je le dis. Et maintenant qu'on a tout, on peut partir. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 21 avril. Bienvenue dans le 136e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Ça sort mercredi prochain comme Indivision, Back to Black, un nouveau biopic musical sur la chanteuse Amy Winehouse. Connue sur la fin autant pour ses addictions que pour ses chansons, elle était avant tout une artiste.
Je veux que les gens entendent ma voix et oublient leurs problèmes pendant 5 minutes. C'est ce que c'est le girl power pour moi. Sarah Vaughan, Lauryn Hill, je préfère te prévenir. Je suis pas une Spice Girl.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Un autre style musical, un autre style de vie aussi, mais beaucoup de succès quand même.
L'album est numéro 1 mondial. Le meilleur classement qu'une artiste britannique ait atteint aux États-Unis. Du jamais vu.
Alors évidemment, le film va aussi montrer ses parts un peu plus sombres, on va dire, notamment l'emprise de son père ou sa relation tumultueuse avec son ex-compagnon, Blackfielder Civil, qui lui aurait fait découvrir l'héroïne.
J'ai rencontré quelqu'un qui crée toujours pour les bad boys.
Je pense pas être sur cette terre seulement pour chanter. Je veux me marier. Je veux être maman.
Tu finiras par te tirer avec un mec célèbre.
T'es mon âme, t'es ma raison d'être, je t'aime.
C'est le second film autour d'Amy Winehouse. Le premier était sorti en 2015. C'était un documentaire oscarisé d'ailleurs, avec des vraies images d'archives et qui avait été un grand succès mondial au box-office. C'est les critiques musicaux anglais ne sont pas tendres avec cette version Back to Black qui sort donc ce mercredi en France. La ressemblance entre Amy Winehouse et Marisa Abella, l'actrice qui l'incarne dans le film, est vraiment frappante. Elle précise que le but du film n'est pas de juger l'entourage de la chanteuse, comme ce qui a été reproché au documentaire sorti en 2015. Elle dit « Si les spectateurs estiment qu'Amy n'aurait pas dû aimer ou faire confiance à telle ou telle personne, c'est leur droit, mais les seuls méchants dans notre histoire sont les addictions et les paparazzi. » Voilà donc pour Back to Black qui sort ce mercredi, tout comme Challengers, un film avec Zendaya qui est l'actrice qui monte en ce moment à Hollywood avec ses récents rôles notamment dans Spider-Man ou dans Dune. La voici en tête d'affiche, à l'affiche d'un film un peu sulfureux on va dire. Elle est la femme d'un tennisman en perte de vitesse qui doit affronter un adversaire assez spécial pour lui puisque c'est son ancien meilleur ami, mais c'est aussi l'ex de sa femme, donc du personnage joué par Zendaya, du temps où ils étaient. Il y a donc une double revanche à prendre pour ce personnage. Et puis sort aussi ce mercredi, Première Affaire, un film sur les débuts d'une jeune avocate que la réalisatrice Victoria Muzendak a eu l'idée de faire après avoir vu se métamorphoser une jeune avocate de son entourage, envoyée à 25 ans en catastrophe au Sable d'Olonne pour défendre un grand-père accusé d'inceste. Bande-annonce de Première Affaire.
Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vous étais à raconter votre histoire aux policiers.
Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, là où t'étais. La garde à vue vient d'être requalifiée en homicide volontaire.
Je représentais un des suspects potentiels.
Impressionnant, vous paraissez si jeune.
Non mais Nora, t'as passé 2 jours avec un criminel? Vous risquez un procès aux assises et jusqu'à 30 ans de prison pour meurtre.
Moi j'ai rien fait, le policier me fait peur.
Je pars là.
Il est innocent et je vais le prouver. J'ai rencontré quelqu'un.
Ça n'a rien à voir avec ton affaire, j'espère.
Vous parlez aux flics en dehors de la procédure?
On peut avoir des problèmes.
Fallait y penser avant.
La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu, la Nora, merde!
J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi.
Il y a des gens qui sont en prison et qui n'ont rien fait, et des assassins en liberté, c'est comme ça.
Voilà donc pour Première Affaire qui sort donc ce mercredi. La réalisatrice s'est beaucoup documentée, a lu des PV d'audition, a aussi assisté à des procès d'assises pour décrire au mieux ce métier si particulier mais nécessaire d'avocat. Emmanuel Barraud, peut-être un film entre les trois, votre
oh, celui que c'est plutôt Zendaya qui est une actrice que j'aime beaucoup. Enfin, je suis pas le seul, mais que j'avais découvert dans Euphoria où elle était quand même extraordinaire. Et donc voilà, elle fait une carrière incroyable. Et puis je trouve que c'est vraiment un beau visage de l'époque, des jeunes. Génération, j'aime beaucoup.
Et bien alors c'est parti, vous irez donc voir Challengers.
Absolument.
Studio B, l'interview.
Et on arrive donc à notre interview. Emmanuel Barraud, vous êtes donc le producteur et le distributeur de Indivision pour le compte de la société donc DKB Productions. Avant d'arriver au film, je voulais parler de ces deux métiers différents, de producteur et de distributeur. Alors c'est quoi un producteur? Quel est le rôle du producteur dans un film? On imagine que c'est celui qui amène l'argent, mais c'est pas que ça.
C'est plutôt celui qui le trouve. Il en amène un peu, mais il va aussi le chercher. Il va le chercher. Donc il y a des institutions. En France, il y a le CNC qui donne de l'argent pour faire des films. Et au Maroc, il y a le CCM qui est un peu la même chose. Ce sont des centres de la cinématographie nationale. Nationaux plutôt. Et donc là, d'abord, c'est les premiers guichets. Surtout que là, c'est du cinéma d'auteur. Donc on n'intéresse pas en premier chef les chaînes, c'est-à-dire les partenaires privés qui eux, vont parier plutôt sur des choses plus commerciales, qui sont plus fédératrices, sont plus mainstream, comme on dit.
Parce que pour trouver l'argent pour un film, généralement c'est ça, c'est les institutions publiques, les chaînes de télé et puis éventuellement des privés,
des coproductions, des distributeurs qui peuvent amener de l'argent, des vendeurs internationaux, c'est-à-dire c'est des gens qui vont aller vendre aux distributeurs de tous les pays du monde. Et puis il y a des Sofica, il y a des fonds d'investissement, enfin bon, il y a pas mal de guichets privés, mais eux attendent des retours sur investissement clairs. Donc sur un film d'auteur qui prend un certain risque, et surtout sur un film d'auteur marocain requin, c'est plus dur de se tourner vers ces gens-là.
Donc le producteur, son premier rôle, c'est d'aller chercher l'argent au milieu de ces personnes. Mais c'est pas tout, j'imagine.
Non, c'est pas tout. D'abord, il doit choisir le film, il doit être d'accord avec le scénario, il doit être d'accord avec l'auteur sur le projet à mener, il doit être d'accord sur l'aspect esthétique, sur artistique, c'est-à-dire qui va jouer dans le film, qui va faire les images, qui va prendre le son, qui va faire la musique. Donc il y a aussi évidemment un travail artistique en amont à négocier. Et puis ensuite, une fois qu'on est d'accord, eh bien on commence à...
C'est en collaboration avec le réalisateur, j'imagine ?
Oui, bien sûr, si son scénario est incompréhensible, ou s'il est trop simple, ou s'il y a des choses qu'on n'aime pas, on essaye de négocier.
Vous l'aidez, vous le dirigez.
En tout cas, on dit, tu veux pas refaire cette partie. Et voilà. Donc, évidemment, il y a vraiment un travail d'édition, comme j'ai envie de dire, sur le scénario, et ensuite évidemment sur tout qui va travailler sur le film, parce que c'est pas rien un film. Ça, le réalisateur est un chef d'orchestre, mais à l'arrivée il faut qu'il ait un bon chef opérateur, c'est quand même pas rien. L'image, il faut qu'il ait des bons preneurs de son, des bons acteurs, surtout des très bons acteurs. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'on fait. Un bon chef décorateur, on avait un très bon chef décorateur sur le film, il s'appelle Angelo Zamparotti. C'est tout ça, c'est des gens, ce qu'on appelle les chefs de postes, ceux qui vont diriger les postes déco, lumière, son. C'est des gens qui vont vous aider, qui vont vous porter, qui vont porter le réalisateur à faire son film. Sans ces gens, sans la complicité de ces gens, c'est une vraie complicité.
C'est une équipe, en fait. C'est vraiment une équipe.
C'est une équipe, et c'est une équipe qui va vraiment vous porter. Hein, donc, faut pas se planter sur l'équipe.
Donc ça, c'est votre rôle de producteur, mais vous avez une deuxième casquette, pour comme on dit. C'est la casquette de distributeur. Qu'est-ce qu'il fait distributeur?
Ben, distributeur, il distribue, c'est-à-dire qu'il va prendre son téléphone et il va appeler tous les exploitants de France et de Navarre. Il y en a 2000.
Un peu plus les salles de ciné.
Voilà, tout ce soit exactement les salles de ciné, ce qu'on appelle les exploitants de salles, et essayer de placer son film.
Voilà, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent chaque semaine.
Vous en citez trois, on en a au moins 15. Oui. Et donc on est 15 chaque semaine dans la seringue, et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc il faut se battre. Alors il y a des salles qui sont très engagées sur le cinéma d'auteur.
Parce qu'évidemment, c'est plus facile pour le distributeur de Dune que pour le distributeur de Indivision.
Oui, d'autant que, bien sûr, puisque l'exploitant est garanti déjà de faire beaucoup d'entrées. Et puis ensuite, moi je suis un tout petit distributeur. Donc les distributeurs forts, ils peuvent imposer des films, y compris des films moins bons. Parce que si on leur dit non, après on leur dit t'auras pas d'une. Voilà. Par exemple,
les
petits que qui arrivent derrière, là, ils doivent être très pugnaces, ouais, et très persuasifs. Donc on va vendre au porte à porte. C'est du porte à porte maintenant, pour moi en tout cas, ce film, et on arrache une salle, deux salles, trois salles, quatre salles, sur le territoire.
Donc c'est un rôle très important pour le film, parce que s'il y a pas distributeur, ou s'il y a un mauvais distributeur, parce qu'il y a forcément un distributeur, mais si le distributeur est pas bon, le film il est pas vu en fait.
Exactement.
Il est pas disponible.
Et c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est l'exploitant.
Oui. Hein,
s'il n'y a pas ce maillon, le film a été fait pour rien. Après, bon, on peut toujours le vendre sur une plateforme ou à la télé, mais enfin, c'est pas la même chose. Pas l'idée.
Parce que je le dis à chaque fois en fin d'émission, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
Exactement.
Bon, revenons donc sur Indivision, le film dont on parle aujourd'hui, le film de Leila Kilani, dont je ne vous demanderai pas de pitcher le film, puisqu'on s'est mis d'accord sur le fait que.
Mais je vais vous dire pourquoi je ne veux pas le pitcher.
Ah, ça, c'est intéressant.
Parce que je sais pas le faire. Simplement, résumer ce film en une phrase, c'est vraiment très difficile, parce que il y a beaucoup de personnages, parce que il y a une intrigue. Une fois qu'on l'a dit, on n'a rien dit. Parce que c'est un problème qui va déclencher une apocalypse. Voilà, je pourrais dire ça comme pitch, mais ça serait pas terrible. Voilà.
Oui, mais
donc, et même la question qui me gêne le plus, à chaque fois, on nous dit, est-ce que vous pouvez nous raconter le film? J'y mets par quel biais je vais attaquer. Voilà.
Parce que justement,
très dense.
Il y a plein d'angles sur lesquels l'attaquer, entre guillemets, ce film. Bon, on va en parler pendant une heure, donc on va essayer de couvrir le maximum d'angles. Peut-être commencer par l'héroïne du film. C'est donc Lina. Lina, elle a choisi de ne plus parler, et pourtant on l'entend beaucoup, en off en tout cas, durant tout le film. Qu'est-ce qui a donné envie de rendre ce personnage muet ?
Le personnage principal du film muet, c'est original, c'est pas banal.
Une enfant qui a fait vœu de silence à la mort de sa mère, c'est dit dès le début du film, donc je ne spoilie rien, et qui va devenir par contre ultra connectée sur les réseaux sociaux. Et Leïla a eu cette idée assez belle, elle s'est dit finalement, toutes ces influenceuses, elle influence parce qu'elle est ornithologue en fait, comme son père, et donc elle est passionnée d'oiseaux, et elle a 200 000 followers sur les oiseaux migrateurs. Et donc elle poste. Et elle s'est dit, Leïla, mais au fond, toutes ces filles qui postent des trucs, toutes les gens, c'est une espèce de Scheherazade, qui doivent poster un truc, qui doivent raconter une histoire tous les jours, sinon elles crèvent. Et donc c'est cette idée d'une Scheherazade 2.0 qui était née dans la tête de Leïla.
Quand elle parle en off, elle a un débit vraiment ultra rapide, même une façon très particulière de parler. Vous l'avez guidée ou elle a été guidée ou c'est elle qui a trouvé cette voie toute seule?
Ah non, ça a été guidé. Il y a pas d'improvisation dans le film. Hein. C'était Leïla a vraiment mis en scène ses acteurs au cordeau. Et donc voilà, c'est genre une petite fille qui ne peut pas parler mais qui déborde de mots.
C'est ça. Il y a une urgence de les sortir, donc ils sortent sur un débit très rapide.
Exactement, donc elle poste cette voix off qui s'emballe, qui est pleine de poésie, qui est pleine d'effroi, qui est pleine d'émotions finalement, puisque c'est une émotion adolescente qui va lui faire d'ailleurs commettre ce que seul un adolescent peut faire, un acte irréparable ou un acte extrêmement transgressif que je raconterai pas, mais qui est quelque chose qui va faire basculer le film.
Ah, elle parle pas directement avec son entourage, donc vous le disiez, elle parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce décalage? Parce que c'est au-delà du fait de la Scheherazade 2.0, il y a vraiment un décalage. Elle parle plus avec tout le monde, avec le monde entier, qu'avec les gens qui sont juste à côté d'elle. C'est intéressant, ça.
En fait, elle communique quand même avec son père. Elle s'écrit sur la peau aussi. Elle est en permanence. Elle réagit et au fond, c'est quand même un personnage qui est extrêmement présent, que les gens ne voient pas. Elle pense ne pas être vue, mais qu'elle est quand même vue par la bonne, par exemple, qui s'occupe d'elle. C'est le personnage qu'on voit pas venir, c'est le personnage qu'on ne regarde pas et qui va tout faire exploser.
Le film, c'est Indivision, il sort en salle ce mercredi, film de Leïla Kiani avec notamment Ifam Matei qui joue donc le rôle de Lina. On en parle jusqu'à midi, vous restez avec nous, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
FM, la rediff.
Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Chaque semaine, on parle d'un film. Notre film coup de cœur cette semaine, c'est Indivision, film de Leïla Kilani, qui sort ce mercredi en salle. On en parle avec le producteur et le distributeur du film, Emmanuel Barraud, qu'on retrouve juste après avoir écouté la bande-annonce.
انا وخوتي ما بايعش
هاد الحجيج غيديونا هاد الارض وهاد الدار وغادي يخليونا والو
حقي نعمي به اللي بغيت نحبسو نوقفو حقي ما يتبع ما يتشرى رينونسيو على لا ترانسميسيون دي لا بروبيداد
فيغاو كابور
فيغاو فيديس
Alors un extrait de la bande-annonce qui est en fait un extrait long du film hein, et c'est assez intéressant. On se rend compte en tout cas pour ceux qui ont compris les mots en arabe que là au centre du film hein, et de tous les personnages de la famille il y a cette maison qui s'appelle la Mansouria. C'est elle que la grand-mère veut vendre, c'est ce qu'on entend dans l'extrait, et elle doit pour cela avoir l'accord de toute la famille puisqu'elle est en indivision. On va peut-être rappeler le statut de l'indivision.
C'est quand un bien appartient à plusieurs personnes, donc on ne peut pas vendre tant que tout le monde n'est pas d'accord.
Voilà, tout le monde doit être d'accord pour la vendre.
Et c'est typique des biens dont on hérite. Oui. Évidemment, parce que c'est quand même ça, c'est une famille d'héritiers, c'est des gens qui ont ce terrain et ce palais qui n'ont pas acheté, ils ont juste hérité d'un aïeul qui était brillant, et eux ils sont beaucoup moins brillants. C'est souvent malheureusement le cas des héritiers.
Pas toujours, mais c'est vrai que ça arrive souvent. Est-ce que finalement cette maison c'est aussi un personnage du film?
Ah oui, complètement. De toute façon, tout le cinéma de Leïla, elle a toujours une obsession, c'est le territoire. Vous entendrez toujours dans ses interviews, elle parle des territoires. Elle l'avait fait sur la planche, son premier film, c'était le port de Tanger, c'était la zone franche de Tanger. Elle l'avait fait avant dans le rêve des brûleurs, son documentaire sur ces brûleurs, ce qu'on appelle ces jeunes gens qui essayent de passer, qui attendent à Tanger pour essayer de passer en Espagne. Là aussi, elle avait créé un territoire dans la nuit qui était très beau. Et là, c'est pareil.
Elle reste sur la zone de Tanger. Elle est sur le territoire de Tanger.
Elle a fait au moins trois films qui se passent à Tanger. Et là, évidemment, la maison est une, mais pas seulement la maison, le territoire autour, puisque tout le problème, c'est ça, c'est que c'est un lieu de passage des oiseaux migrateurs, et en plus de ça, il y a des bidonvilles sur le terrain. Donc, c'est un terrain qui foisonne de problèmes, qui foisonne de vie, et qui vont l'empêcher d'atteindre son but, c'est ça.
On a entendu à la fin de la bande-annonce, en tout cas, il y a des dialogues en arabe et en espagnol sur la fin. On est vers Tanger, donc à proximité de l'Espagne. Lina, elle parle en français, ou en tout cas quand elle s'exprime sur les réseaux, quand elle écrit sur son corps, quand elle nous parle en off, c'est toujours en français. Il y a une volonté de mélanger les trois langues.
Oui, parce que c'est comme ça qu'ils font à Tanger, surtout parce que l'Espagne est à côté, donc ils parlent beaucoup espagnol, français parce que c'est aussi un pays un peu francophone, et puis l'arabe, donc ils mélangent tout. C'est extrêmement vivant, moi j'aime beaucoup ça. Ça, on nous avait dit, faites pas ça, c'est compliqué, trois langues dans un film. Mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai vu dans beaucoup d'endroits dans le monde, où les gens parlent plein de langues, enfin au moins deux, et qui peuvent
et passer. Ça se mélange,
voilà, et ça se mélange, et donc ils peuvent s'engueuler en espagnol, parler en espagnol pour pas que la petite comprenne, s'engueuler en français, et puis se dire des trucs gentils en arabe, enfin tout ça peut se mélanger, et voilà,
ça fait vrai, surtout c'est comme ça que ça se passe,
et c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans ces grandes familles, parce que c'est quand même aussi un truc, je pense, qui est plus bourgeois que populaire, mais quoique.
Au-delà de la maison, on l'a dit, il y a une immense propriété, et c'est presque ça qui intéresse plus les promoteurs immobiliers qui veulent racheter le terrain pour en faire sûrement une grande construction immobilière. Une propriété en partie recouverte de forêts, et le film s'ouvre d'ailleurs sur de magnifiques plans d'oiseaux. Vous avez voulu donner une grande place à la nature, en tout cas Leïla a voulu donner une grande place à la nature dans le film.
Oui, d'abord parce que c'est un endroit qui est véritablement un lieu de passage des oiseaux migrateurs, et notamment des cigognes. C'est pour ça qu'il y a ces nuées de cigognes qui les entourent. Et il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, les cigognes, quand elles arrivent à Tanger et qu'elles partent ensuite vers l'Espagne, comme il y a des bouleversements climatiques, elles sont perdues, elles reviennent à Tanger. Donc il y a déjà un espèce de bouleversement. C'est un coin où les oiseaux sont assez nerveux. Et comme, évidemment, c'est un conte écologique, d'une certaine façon, ce film, entre autres. Parce que justement, c'est vraiment ce qui va rendre fou le fils de la famille et la petite, c'est l'idée qu'on aille vendre à des promoteurs espagnols un terrain aussi beau et qui n'appartient pas à la famille véritablement, mais qui appartient aussi aux oiseaux. Mmh. Et c'est ça qui va être le grand chamboulement, c'est qu'ils vont, le père va décider de renoncer à la propriété pour faire un acte qui n'existe, je crois, que dans le droit islamique, qui s'appelle le habous. Le habous, je crois que c'est dans le Coran. C'est, vous dites, je renonce à ma propriété et je donne ce qui m'appartient. Ça peut être un hôpital, ça peut être un bout de terrain, et je donne ma propriété au bien public. C'est-à-dire, et c'est l'État qui est garant de ça. Il ne peut pas, donc plus personne ne peut l'acheter. Donc, il y a un des propriétaires en indivision qui dit, je fais un habous.
Ce qui vient complètement faire capoter le projet immobilier.
Exactement.
Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de l'indivision, et l'indivision, il faut que tout le monde soit d'accord, et donc l'État ne peut pas rendre son habous après.
Exactement. Il pense extrêmement moderne. C'est quelque chose, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a emballé les associations de défense de écologistes au Maroc, qui vont sortir eux-mêmes le film. Ils ont dit, nous, ce qu'on aime dans votre film, c'est que c'est pas un film militant, mais au fond, les films militants écologistes, ça prêche les convaincus. Votre film, là, il montre un truc, c'est le habous. Ça, c'est très très bon, c'est parce qu'on peut bloquer des tas de ventes avec cette idée, pour peu que quelqu'un refuse de vendre. Et donc ça les a complètement emballés, et ils sont en train de faire un travail remarquable. On sort le film en juin au Maroc, ils sont déchaînés, et ça va être génial, ça.
Une fiction, elle peut parfois avoir plus d'impact qu'un documentaire, du coup, sur ce...
Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est un point de vue, peut-être que tout le monde n'a pas le même point de vue, mais cette idée que un film peut révéler quelque chose et peut être saisi par les militants, plutôt que plus facilement qu'un film militant qui dira ce qu'on attend de lui, enfin voilà, qui sera moins surprenant.
Pour montrer la nature, il y a des magnifiques plans qui sont vraiment dignes de documentaires animaliers, hein, les ailes d'oiseaux qu'on voit au début du film, qu'on voit aussi dans la bande-annonce. Vous qui nous écoutez, vous pouvez déjà aller voir la bande-annonce, on se rend vraiment compte. Il y a une beauté sur les tout premiers plans sur cet oiseau avec ses plumes bleues qui prennent dans la main de manière très douce, qui regarde comme ça. Il y a aussi les plans, vous en avez parlé, sur les plans sur les cigognes. Qu'est-ce qu'ils viennent dire dans le film, ces plans?
Ah, ils viennent dire l'amour de la nature, je sais pas, c'est une douceur des pères qu'un père et sa fille partagent. Ils sont passionnés d'oiseaux tous les deux, donc il les étudie véritablement, donc c'est pour ça. On a travaillé avec des vrais spécialistes des oiseaux en Espagne, on les avait attrapés là, c'est eux qui tendent des filets, ils attrapent les petits oiseaux, ils les badgent, ils les retrouvent, ils étudient un peu tous les changements justement que provoquent les bouleversements climatiques, Et donc, qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça dit une passion pour autre chose que l'argent et le matérialisme.
Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des choses belles.
Bah oui.
Comment vous avez fait pour les réaliser ces plans? Je pense notamment à ceux où Lina est au milieu des oiseaux. Ouais. Il faut se retrouver au bon endroit, au bon moment. Quand on regarde les making-of de films documentaires, il y a des gens qui peuvent passer des heures et des heures à attendre le bon plan, etc. Là, il faut en plus qu'il y ait l'actrice qui soit là au bon moment. Ça n'a pas dû être facile.
On a attendu les oiseaux pendant longtemps. Et quand on est arrivé, tout le monde nous a dit c'est trop tard, ils sont partis vers l'Espagne. Et comme tout d'un coup il faisait très chaud en Espagne, ou il faisait trop froid, je ne sais plus exactement, les cigognes sont revenues.
Oui,
et un jour, et donc elles se posent partout dans les arbres, sur les murs, etc. Et elles attendent. Et c'est là qu'on a pu tourner et qu'on a eu la grâce de ces. C'est absolument hallucinant de se retrouver dans une foule de cigognes.
C'est grand comme oiseau, c'est très grand.
C'est hyper grand et c'est très très étonnant. Alors ça ne chante pas une cigogne, ça caquette. Mmh. Ça fait ça. La seule qui ne caquette pas vraiment, c'est la cigogne noire qui grogne. Elle a un espèce de grognement. Et c'est pour ça qu'elle, elle s'appelle la cigogne noire. Enfin, en plus, dans le film, il y a une petite histoire. Son surnom de réseaux sociaux, ouais, c'est la cigogne
noire. Son pseudo, oui. Cigognanera.
Exactement.
Et alors, surtout, ces oiseaux, ils peuvent aussi être inquiétants. Il y a un côté Hitchcock, il y a un côté le film des oiseaux. Parce que quand c'est une grande nuée d'oiseaux, ça peut être inquiétant. Et on peut avoir l'impression qu'ils viennent menacer aussi la famille.
Absolument. Ils se font de plus en plus menaçants. Parce qu'une question se pose dans le film très vite, c'est à qui appartient la terre. Et tout d'un coup, les oiseaux, on a l'impression qu'ils revendiquent leur part. Voilà. Les oiseaux revendiquent leur part de l'indivision. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce titre, même s'il est un peu notarial. C'est vraiment, je trouve, le mot de l'époque, indivision. On vit tous sur une planète. La fin du monde, la fin du mois, tout ça, on en est tous responsables. Voilà. C'est ma lecture de producteur. Leïla en dirait peut-être autre chose, mais moi je trouve que c'est un très bon titre. On voulait, les vendeurs internationaux voulaient qu'on appelle ça Birdland.
Oui.
Moi, je trouve ça un peu faible. Indivision, je trouve ça très très bien.
Ça s'appelle donc Indivision. Ça sort mercredi en salle. C'est le film de Leïla Kilani.
Studio B, l'actu ciné.
L'actu ciné avec le box-office dans un contexte toujours assez faible pour les ciné français. Seulement 2,2 millions de spectateurs dans la semaine en salle. C'est SOS Fantôme qui prend la tête du box-office avec 310 000 billets vendus dans un mouchoir de poche devant Kung Fu Panda qui reste second au bout de 3 semaines d'exploitation avec 300 000 nouveaux spectateurs. Tandis que Godzilla X Kong descend de 2 marches et est donc 3e avec 245 000 nouveaux spectateurs sur sa seconde semaine en salle. Des nouvelles de Cannes, du festival de Cannes avec après la sélection officielle, ce sont les sections parallèles qui ont révélé leur sélection cette semaine pour les films venant du Maghreb. On notera à la quinzaine des cinéastes la sélection de Ryan Msirdi pour son court-métrage Après le Soleil et côté long-métrage East of Noon d'Égyptien Ala El Koussi, un film sur un musicien rebelle. L'Égypte à l'honneur aussi dans la semaine de la critique avec la sélection de The Brink of Dream de Nada Riad et Ayman Al-Manir, un film sur une troupe de théâtre féminine dans une zone d'Égypte très conservatrice. C'est toujours la semaine de la critique, mais en séance spéciale hors compétition, le Marocain Saïd Amish Belarbi présentera La Mer au Loin, l'histoire de Nour, émigrée clandestine à Marseille, qui rencontre Serge, un flic charismatique, et sa femme. Brigitte Macron, héroïne d'une série. L'annonce de Gaumont cette semaine a surpris beaucoup de monde, y compris a priori à l'Elysée, qui dit avoir découvert le projet par la presse. Une série de 6 épisodes est donc en préparation, qui racontera, je cite, la trajectoire romanesque de la première dame Brigitte Macron. La série n'a pour le moment pas de plateforme ou de chaîne de télé pour la diffuser, et donc cherche un distributeur, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Tarantino abandonne The Movie Critic. Ce devait être le 10e et ultime film de Quentin Tarantino, un projet avec Brad Pitt sur un critique de cinéma dans le Los Angeles des années 70. Il avait déjà retardé le projet en réécrivant le scénario et il aurait finalement décidé d'abandonner sans raison. Mais Tarantino est quand même un peu connu pour ses changements d'avis, donc il n'est pas impossible qu'il y ait un rebondissement dans cette affaire et que cette décision ne soit pas définitive. Merci d'être avec nous, c'est toujours Studio B. On est toujours ensemble jusqu'à midi avec Emmanuel Barraud, le producteur et le distributeur du film Indivision de Leïla Kilani. On continue d'en parler avec lui juste après la pause. Restez avec nous.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, bien plus qu'une radio.
Hablo, 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 la tacita y hablo. تحنكرها هبلو 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 ولاد القيه هبلو 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 ولاد القيه هبلو خويا الاسقاط شيخ ورزونقه هبلو هبلو
Beurre FM, la rediff.
Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Chaque dimanche entre 11h et midi, et puis n'importe quand vous voulez, en podcast, depuis la plateforme, depuis toutes les plateformes de podcast, depuis le site beurrefm.net ou depuis l'application Beurre FM, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On parle aujourd'hui du film Indivision. Il sort ce mercredi, c'est un film de Leïla Kilani, un film qui se passe dans une belle maison avec une belle propriété autour au Maroc, que la famille propriétaire, en tout cas la famille héritière, va se battre pour certains veulent la vendre et certains veulent la garder. C'est le principe d'une indivision. On en parle avec Emmanuel Barraud, qui est donc le producteur et le distributeur du film. Les forêts autour de la Montsouria, qui est donc cette maison, sont donc menacées par les producteurs immobiliers qui veulent racheter le terrain pour en faire un complexe immobilier. Menacé à moyen terme, mais à plus court terme, ce sont les incendies qui la menacent. On le voit sur l'affiche du film notamment. Qu'est-ce que la réalisatrice a voulu montrer avec ces incendies, dont la cause reste un peu floue dans le film d'ailleurs? On ne sait pas trop qui c'est qui les a lancés au final.
Bah c'est comme je disais tout à l'heure, elle adore les territoires, le concept de territoire, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup creuser. Et donc là, elle voulait un territoire qui s'embrase, c'est-à-dire que à cause d'une indivision, à cause d'un changement, elle voulait une révolution copernicienne complètement, où toutes les valeurs allaient vriller comme ça. Et pour arriver à là, il fallait que tout flambe, que tout s'embrase. Donc ça s'embrase pas par hasard. Il y a aussi sur le terrain, il y a des cigognes, il y a cette famille, mais il y a aussi des bidonvilles. Et eux aussi, ils voient d'un très mauvais œil l'idée que des promoteurs espagnols rachètent, parce que ça veut dire qu'ils vont être expulsés. Et donc c'est ça aussi qui va contribuer au feu, et en tout cas à la révolte.
Est-ce qu'elle a pu être inspirée aussi un peu par les incendies qui ont eu lieu ces derniers étés, justement dans cette région du Maroc notamment, parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Maghreb qui ont brûlé?
C'est arrivé juste après nous. C'était comme le film est un peu prémonitoire là-dessus, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que
le tournage a eu lieu avant. Hein, en fait,
avant,
ça,
ouais. oui, avant, on a tourné avant. C'était écrit bien avant et ça s'est passé exactement comme ça se passe un peu dans le film. D'ailleurs, il y a eu aussi des révoltes, il y a eu des expropriations. Tous ces problèmes sont des problèmes qui se passent au Maroc, mais qui se passent d'ailleurs partout dans le monde. Hein, à un moment, cette espèce de massacre de la nature, de loi de l'argent, des expropriation, c'est partout. Donc c'est quelque chose qui a eu lieu juste après qu'on soit parti. Ces incendies qu'on a cherchés partout, qu'on n'avait pas.
Oui, parce que vous vouliez les filmer.
Ils ont eu lieu après, on avait trouvé des endroits pour filmer, mais...
Alors, justement, comment vous avez fait, vous, pour filmer des incendies qui n'avaient pas lieu dans un endroit, une forêt qui c'est dangereux, quoi, parce qu'ils sont vraiment spectaculaires et c'est vraiment bien fait, cette partie-là.
Oui, c'est des astuces. Il y a très peu d'effets spéciaux, hein, comme par exemple quand il court dans les flammes, il a vraiment couru dans les flammes. C'est dans des endroits où il y avait des feux, je vous dirais pas, je veux pas dire, parce que sinon ça perdrait un peu, mais on a trouvé des astuces. C'est ça qui est super avec le cinéma, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, on trouve des astuces. Et on peut arriver à trouver des astuces comme des incendies gigantesques.
Vous avez commencé à en parler un peu, mais la forêt abrite un bidonville, un village en fait qui squatte les terres de la Montsouria, des Bechtani, et qui a peur de se faire déloger si la propriété est vendue. C'est même sûr, ils se font déloger. Qu'est-ce qui vient montrer ce bidonville?
Bah, il vient montrer que à qui appartient la terre. Est-ce que c'est les gens qui ont un titre de propriété ou c'est les gens qui ont des familles et qui vivent dessus? C'est les Indiens. C'est l'altérité en face, des gens qu'on veut nier, qui n'ont pas le droit au mot et qui tout d'un coup, eux aussi, comme les oiseaux, vont se rappeler au bon souvenir de ceux qui veulent les ignorer. La révolte des affamés, la révolte des damnés de la terre, ça a toujours existé, ça, et ça va exister de plus en plus. Une fois de plus, hein, c'est toutes les problématiques de l'époque, l'écologie, la fin du monde, et puis la fin du mois, où est-ce que je vais vivre, comment je vais remplir mon assiette, tout ça, ça c'est posé dans le film. Alors cette famille, alors Leïla a voulu, c'est pas un film social au sens où elle a vraiment voulu prendre le parti de la famille, l'intérieur de la famille. On voit assez peu. Les j'ai envie de dire les Indiens, un peu comme dans un film de John Ford.
Elle prend le point de vue peut-être plus que le parti. C'est plus le point de vue que le parti de la famille.
Elle prend le point de vue, oui bien sûr. Mais enfin, c'est pas des personnages méchants. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le cinéma de Leïla, c'est que c'est tout le monde est plutôt gris. Il n'y a pas de blanc, de côté blanc et de côté noir. Il y a tout le monde est gris. Tout le monde va jouer sa carte avec le jeu qu'il a en main. Tout le monde va faire quelque chose sans l'ombre d'un plan ni d'une stratégie à long terme. C'est-à-dire qu'ils vont jouer quelque chose. Ils vont réagir. Elle, celle qui veut vendre, celle qui pousse la matriarche, la terrible maréchale, qui magouille pour essayer de vendre son truc. Finalement, son plan, c'est quoi? C'est d'acheter un petit appartement à Marrakech, alors qu'elle vit dans un palais. Oui. Le plan est nul. La petite, elle va faire ce truc incroyable que je vais pas dire. Mais elle réagit comme une adolescente le fait. Le père va renoncer à la propriété. Et après, c'est quoi le plan? Il n'y a pas de plan. Simplement, ils réagissent dans le moment. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchanceté profonde propre à chaque personnage.
Pour revenir sur les bidonvilles, c'est une situation qui existe au Maroc?
Oui, des
bidonvilles qui squattent des propriétés qui
sont sur des terrains qui appartiennent à des propriétaires, bien sûr. Et c'est arrivé, je veux dire, je crois que c'est arrivé à Tanger récemment. Ils ont voulu exactement la même histoire. Ils ont voulu vendre des promoteurs espagnols et les gens se sont révoltés.
Et on parlait de à qui appartient la terre, à ceux qui possèdent ou à ceux qui y vivent. Est-ce que dans ceux qui y vivent, il y a aussi les animaux qui y vivent?
Bien sûr.
Donc les cigognes et les
bien sûr.
C'est pas que les bidonvilles.
Exactement, et c'est pour ça que ces cigognes se mettent à tourner autour de tous ces gens qui mettent le feu à leur territoire. Ça appartient aux oiseaux aussi. La nature appartient à la nature.
Vous parliez de la grand-mère de Lina. Donc alors son vrai nom c'est Amina, elle est surnommée la maréchale. Déjà ça veut tout dire, hein, ce surnom. Un personnage ambivalent. Elle paraît quand même plutôt gentille au début. Elle paraît elle est gentille avec Amina. Elle est gentille aussi avec la bonne. En tout cas elle paraît gentille avec la bonne sur les premières images. Mais elle peut aussi être complètement manipulatrice et mauvaise quand les gens vont pas dans son sens. C'est pas du tout le personnage classique de la grand-mère maghrébine.
Non, pas du tout. Mais ça, Leïla, là-dessus, encore une fois, elle crée des personnages qui sont pas attendus. Là, c'est pas du tout un personnage protecteur. C'est un personnage qui en a soupé de cette famille d'Aristo, qui lui pèse. Son mari était, elle a pesé. Ses cousins sont insupportables. Elle a en charge cette espèce de maison qui l'énerve. Donc, elle veut liquider. En fait, c'est une grande affaire de liquidation.
Elle veut s'en débarrasser, quoi.
Liquider cette propriété, aller faire sa vie enfin un peu librement pour les années qui lui restent. Donc, oui. Non, c'est quelque chose de. C'est une pulsion égoïste, mais c'est une pulsion normale aussi, quelque part. Quand on en a marre, parfois, il faut être un peu égoïste.
Oui, c'est
si on peut s'en sortir.
Elle est à la tête, on va dire, de cette famille qui paraît assez soudée au début. Il y a des premières images, sans rien spoiler, on a l'impression que tout le monde se retrouve dans la même famille et que tout le monde est heureux. Et que, mais très rapidement, le film montre vite qu'il y a à la façade ce qu'on voit et puis qu'en dessous ça peut vite être faux, quoi.
Bon, en tout cas c'est une famille comme on en a tous, avec des problèmes et des rancœurs, mais quand on arrive pour faire la fête, on fait la fête.
Oui.
Donc ça part bien, puis très vite la fête va être gâchée, bien sûr, ils vont être rattrapés par la troupe, mais c'est une famille, une grande famille qui a des bons côtés, voilà, donc là aussi c'est très classique.
On parlait tout à l'heure du bidonville, entre la famille et le bidonville, il y a un personnage qui fait le lien, c'est la bonne, oui. Chinoui, alors déjà c'est un surnom aussi.
Ouais, ça veut dire la chinoise.
Ouais. Les surnoms sont généralement pas très sympathiques, hein, du coup.
Surtout il est pas chinoise du tout.
Enfin, oui, c'est ça.
C'est pas horrible comme son nom, enfin c'est bizarre.
Elle paraît être aimée, est assez proche de la famille, et c'est pourtant un des éléments qui va semer le trouble.
Ben oui, parce qu'ils vont lui faire un coup horrible. Et à ce moment-là, là aussi, donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Dans les familles très populaires, il était d'usage de donner, enfin, de confier une de ses enfants à une famille riche pour qu'elle soit copine avec la petite de la famille. Mais en réalité, sous couvert de ça, c'est une bonne. C'est-à-dire qu'elle fait toutes les tâches ménagères, elle s'occupe de la petite.
C'est la très bonne copine, quoi.
Elle a une relation très forte avec la petite fille de la famille, donc celle qui est la Scheherazade 2.0. Et en même temps, elle va commencer à comprendre qu'elle est, elle va être prise entre deux feux, entre sa famille du bidonville, qui veut pas être expulsée, et la famille qui a pris soin d'elle, et les aristocrates. Et donc, elle va être prise entre deux feux. Et elle aussi, comme tous les autres, elle va dire « je vais jouer ma carte ». Voilà, c'est ça l'idée, c'est toujours regarder les gens dans leur, comment dire, dans leur pulsion, dans leur désir, dans leurs inquiétudes, dans leurs élans, plutôt que de les regarder de façon morale. On est par-delà bien et mal, chacun va à un moment jouer sa carte. Quoique la bonne, on comprend très bien ses motivations. À un moment, elle va se libérer de tout ça. Elle va se libérer, elle va donner raison à personne, elle va se libérer.
Mais tout le monde la joue perso finalement, sans penser au groupe.
Mais tout le monde la joue perso, mais comme on fait tous un peu dans la vie, c'est tout d'un coup le collectif devient insupportable. Tout d'un coup le collectif devient mensonge. Hein, c'est ça. Il faudrait que je me soumette à un mensonge du collectif. Non. Et là, tout le monde va se libérer.
Sans révéler l'histoire, pour revenir sur Chinouïa, on va dire qu'à un moment elle prend l'ascendant sur la grand-mère. Voilà. Est-ce que vous avez voulu un renversement, une prise de pouvoir un peu des pauvres sur les riches?
Bah, c'est en tout cas de la bonne sur la maîtresse de maison, oui. C'est une révolution, oui, une révolution. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une libération de l'être soumis de la famille qui devient d'être le personnage fort. Et l'autre se déballonne. Enfin, oui, elle se déballonne. Oui.
C'est ça. Il faut voir le film de toute façon pour avoir tous les détails.
Il faut le voir absolument.
Ça sort mercredi en ça s'appelle Indivision. Un film qui est classé, j'ai regardé sur Allociné, il est classé dans la catégorie drame et thriller. Ça vous convient comme classement?
Oui, parce que je vois pas bien. C'est un drame. C'est pas triste comme film.
Film. Drame, ça veut pas dire toujours triste.
Voilà,
mais c'est
thriller, parce que il y a un mort, parce que ça les gens se battent. Oui.
Il y a une volonté de faire un thriller. Il y a une notion de suspense. Il y a une notion de pression. Il y a une notion de c'était une volonté de faire un film comme ça, un peu sous pression.
Un thriller un peu libre. Voilà, oui. On n'est pas dans le thriller. Bon, ça veut tout dire et rien dire. On met un peu, c'est une case. Hein, c'est difficile de.
Oui,
trouver
c'est
une
pas,
case.
C'est pas un thriller d'action, quoi. Voilà, c'est pas James Bond. Voilà, c'est pas Mission Impossible.
Mais enfin, ça court, ça crie, ça se déchaîne quand même. Mais on n'a pas, c'est pas un blockbuster américain. Ça, c'est sûr.
Le film est porté par un beau casting d'acteurs. On a cité Ifam Maté, mais on pourrait aussi citer son père, Mustapha Shindat, la grand-mère, Baya Bottia El Oumani, et puis aussi Chinouïa, Ikram Layashi. Ils ont été trouvés sur casting,
à Tanger, ils n'étaient pas du tout, c'était pas des professionnels, ils sont tous débutants.
C'est tous leur premier film.
Oui, c'était leur premier film.
C'est un défi.
Oui.
Et vous disiez tout à l'heure que Lila les a beaucoup dirigés, à laisser peu de part à l'improvisation.
Très peu, je crois, et même quasiment pas. Tout était écrit. Les seuls qui ont pu improviser, c'était les oiseaux finalement,
oui.
Parce qu'on n'a aucune prise. Mais sur les textes, elle était extrêmement précise et elle les a fait travailler vraiment très 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 longtemps et très laborieusement. Oui.
C'est un film qui, vous le dites, hein, il a été tourné avant les incendies, donc il a été tourné dans les années 2020, j'imagine.
2015. Alors c'est un film qu'on a tourné.
C'est un long projet, c'est un projet en cours.
On a dû commencer fin 2015, début 2016. On a retourné ensuite en 2018, jusqu'en 2019, je crois. On a tourné par petits bouts. On n'a pas tourné non-stop.
Ouais, j'ai bien sûr.
Et on a tourné ensuite en mode commando, notamment pour avoir les oiseaux. Pour avoir les oiseaux, c'était ça le plus dur. Donc on les a poursuivis.
Un projet au long cours qui a un grand parcours de festival. Qui a été montré
on a été au festival, on était en compétition à Rotterdam, on était au FIT de Marseille. Après, il y a des petits festivals très très bons, notamment le festival du film arabe de Famec dans l'est de la France qui nous a donné son grand prix. On a eu le festival du film africain à Apt. Là, on était très contents parce qu'on a eu le prix des jeunes. C'est les jeunes qui nous ont donné le prix de la meilleure fiction. Eux, ils trouvaient ça formidable. Enfin, moi, je peux pas vous dire parce que je vais spoiler le film. Ils avaient des questions incroyable les lycéens. Et puis on a eu le prix d'innovation dans un super festival, le festival du Québec de Montréal. Festival de Montréal.
C'est important pour un film, le parcours en festival.
Oui, oui, bien sûr, parce que ça offre une visibilité. D'abord, il y a beaucoup de professionnels qui regardent quand même qui passent en festival. Et oui, c'est très important, très important.
Jusqu'au parcours final qui est donc la sortie. En tout cas la sortie française, parce que il y a une autre sortie qui est très très attendue. Vous disiez la sortie au Maroc au mois de juin.
Au Maroc et en Tunisie on sort en septembre, je crois.
Bon, et en tout cas, pour le voir en France, c'est à partir de mercredi. Ça s'appelle Indivision. Merci beaucoup, Emmanuel Barraud.
Merci
d'être venu parler de ce film qui sort donc ce mercredi, film de Leïla Kilani, qu'on excuse de pas avoir pu venir à cause de sa pneumonie. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Ça tombe mal sur la semaine de la promo, quoi. C'est quand même vraiment dommage.
Mais
on choisit pas. En tout cas, on la salue si elle nous écoute. Indivision sort donc ce mercredi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur beurrefm.net, sur l'application et sur toutes les applications de podcast. On se retrouve la semaine prochaine entre 11h et midi. On parlera du film Petite Main, un film sur le mouvement de grève des femmes de ménage dans les grands hôtels parisiens. D'ici là, n'oubliez pas, et surtout n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurrefm.
kilos dans ma valise. Je prends sur moi, je canalise. Des promesses, j'en entends tellement, tellement, tellement que de mensonges je banalise. J'ai sorti le drapeau en Messie. La fierté est presque une maladie. Willy et Willy, ouais, yeah, Sidi. Yes, somebody, c'est les liens. Baby, dans ma tête, c'est la folie. Inch'Allah, demain, ça ira. En attendant, j'écris ma story, story, story. C'est comme ça, mais t'es bien.
Dis-moi avec qui tu traînes. Je te dirai qui te freine. J'arrive comme la colère de Dieu, y'a que les coupables qui me craignent. Chargé comme 504 breaks, comme un 103, comme un grec. Celui qui croit que je suis cuit repart saignant comme un steak. Ma poisse me colle aux pattes comme plancher de boîte en fin de soirée. J'investis dans un voilier, je vais quand même pas me laisser noyer. Mais j'ai peur de faire de mon mieux, de partir avant eux. Les meilleurs partent en premier. Laissez-moi faire mes deniers, loin des lumières, loin des yeux.
Mais ça vous remise, Willy et Willy. Yes, somebody, c'est les liens. Baby, dans ma tête, c'est la folie. Inch'Allah, demain, ça ira.
Inch'Allah, demain, ça ira.
En attendant, j'écris ma story, story, story. C'est comme ça, mes délires. Zina, Didi, les dames. Akabra, Rabez. J'ai l'accent du Maghreb. Mais les boules dans ma tête. J't'arrive pour moi, ma belle. Bélise ou Marseille. Même si c'est la haine. Avec moi, baby, dans ma tête, c'est la folie. Inch'Allah, demain, ça ira.
Inch'Allah, demain, ça ira.
En attendant, j'écris ma story, story, story. C'est comme ça, mais t'es bien. Oh, El Leila.
FM. Bien plus qu'une radio.
فيكني وقيتك انتي عطيتي وعود ما تسمحي فيا تبقي خليا وتفرق بالموت واليوم في متيا قعدتي عليا فلافة تقود خرجت الباب وانتي خليا شكون فينا لابود غابلتني بغيتكي ما حسني بغيضا مولا مور وانت اللي عرفتني جامي نسمح فيك نبقى بوتو جور عيشتيني حكايات كيما روميو وجوليات لعبتي في المسطور في الاخر غير كذبات وكلمة جوتيان درتي هاتي كور اي معليش انا بديت وبيك انتي رضيت شفتها امور شباب دروك فرايي وليت كرهت ومليت وعيت من العذاب
Ça c'est bien,
ça c'est bien,
madame,
ça c'est bien,
ça c'est bien, bébé, on se
barre d'ici, Beurre FM,
ici je sens jalousie,
toujours plus de hits.
Al Qalbi et tap tap, aïe les baba, va au top top, quand t'es pas là là.
La porte je toc toc, t'inquiète pas, je suis venu pour toi, préviens ton papa.
Allô, allô, téléphone est sonna, allô, allô, mal baby mal. Allo, 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 téléphone et sonna.
On communique à joie quand tu dis j'ai pas d'effort. Donc à quoi ça sert? On communique à joie quand même si je t'en demande encore. Explique à moi ça sert.
On communique dans le skaska. Que les gens ils veulent skaska. Moi j'ai pas comme un reste skaska. Ah doudou, c'est toi là.
Beurre FM, toujours plus de hits. FM, il est 6h.